élevé. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. Ouh, premier passage, premier acte. Un passage qui est dur. Beaucoup de reproches aux bergers. Beaucoup de reproches aux bergers d'Israël. Dans ce passage, on voit des bergers qui sont les dirigeants du peuple d'Israël, les rois. On voit des brebis qui sont égarées, des brebis qui sont faibles, des brebis dont on ne prend pas assez soin, qui sont un petit peu chacun disséminés, des brebis sur les hauts lieux. Et les hauts lieux, dans l'Ancien Testament, c'est souvent signe d'idolâtrie, parce que c'est là qu'il y avait les autels pour les faux dieux et les poteaux d'Akéra, etc. Donc on voit des brebis un petit peu partout, et on voit ces bergers qui ne prennent pas soin correctement du troupeau, et donc des brebis en souffrance. Il est dur, les reproches qui sont faits aux bergers, aux rois, aux dirigeants d'Israël. Alors je me suis posé la question, si on imagine le roi, imaginons David, hein, le roi David est très 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 connu, est-ce qu'il était là dans sa salle et il attendait que tout le peuple entier vienne devant lui pour recevoir un pansement, pour être soigné, guéri, avoir un conseil, quelque chose comme ça? Je me suis dit, mais non, mais ça paraît pas possible. C'est pas juste. Enfin, le reproche, il est fait au berger, mais comment un berger du peuple d'Israël pouvait s'occuper de tout le peuple? Ça paraît presque pas possible. Ce passage-là m'a fait penser à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Ève croque le fruit, qui se cache, que Dieu vient les chercher, et Dieu, il s'adresse à qui? À Adam. C'est Ève qui a croqué. Alors oui, où était Adam, bien sûr, hein. Mais c'est Ève qui a croqué, pourquoi Dieu vient chercher Adam? Adam était redevable devant Dieu pour ce couple, pour le couple. Il était redevable, responsable en premier devant Dieu. Est-ce que dans ce passage-là, c'est pas un peu pareil? Est-ce que c'est que les bergers qui ont les bandelettes, les pansements, le désinfectant, etc., pour imager, hein? Ou est-ce que c'est beaucoup plus largement, mais c'est une question de responsabilité? On voit aussi Moïse, quand il conduit le peuple d'Israël, ils sont plus d'un million dans ce désert perdu au milieu de nulle part. Et à un moment donné, ils craquent. Ils craquent, la charge est trop lourde de prendre soin de tout ce peuple. Tout le monde, là, par contre, venait devant lui pour recevoir un conseil, un jugement, pour exercer telle et telle chose. Et Moïse, il craque, il dit, mais non, je ne peux pas porter ça tout seul. Et Dieu lui dit, mets à part 70 personnes, je vais répandre mon esprit sur elles et elles vont t'aider dans cette charge-là. Et on voit la même chose, cette même logique-là, dans le Nouveau Testament, avec des anciens qui sont établis par Paul, par les apôtres, dans chaque communauté, et qui disent à un moment donné, oh, mais il y a des énormes besoins, l'Église était grandissante, florissante, et des besoins multiples de différentes cultures, de différentes ethnies ensemble, et il y avait quelques difficultés de besoins, notamment au service des tables. Et les anciens disent, mais on ne peut pas s'occuper de tout aux tables, on a besoin de personnes. Et c'est là qu'ils ont appelé des diacres. On voit cette même logique-là. Et pourtant, le reproche, là, il est fait aux bergers. Et je crois qu'il y a vraiment une histoire de responsabilité première. Même si ce n'est pas le berger qui va s'occuper exclusivement de tout, qui a une délégation, imaginez, dans un pays entier, il y a besoin de délégation, mais il y a une histoire de degré de responsabilité. Et c'est pour ça que le reproche, il est fait aux bergers. Donc, ok, imaginons ça, imaginons ce passage pour nous, en tant que communauté, un reproche qui est fait aux bergers. Ok, donc là, ce matin, on est concerné si on est responsable, si on fait partie de la diaconale, si, allez, responsable de groupe de vie, responsable des enfants, responsable quelconque responsabilité. Alors les autres, je suis désolée, bouchez-vous les oreilles parce que vous n'êtes absolument pas concernés par le fait de se fortifier les uns les autres, tout ça, non, non. Bien sûr que non, en fait. On le voit par extension que le reproche, il est faux berger, mais qu'en fait, on est tous complètement concernés par aussi nous fortifier les uns les autres, par nous panser nos blessures, etc. Le Nouveau Testament dit, prenez soin les uns des autres. On a passé toute une rentrée d'église, 3 mois à parler les uns les autres. Et c'est tellement... C'est une notion qui est importante. Oui, il y a des responsables, des dirigeants, ils doivent s'occuper de ça en premier et ils doivent impulser ça dans la communauté. Mais on est tous responsables aussi, les uns des autres, à prendre soin, à panser nos blessures. Donc ce matin, on est tous complètement concernés par ça. Comment est-ce que j'interagis avec mon frère, avec ma sœur ? Dans notre culture, on a... Dans notre culture d'église, dans nos pays, on a une forte attente souvent sur la personne qui est le pasteur ou le responsable. Et parfois, on peut se dire, si ce n'est pas lui qui a prié pour moi, ah, je pense que je ne suis pas assez bien guérie. Alors qu'en fait, on peut tous, quel bel exemple ce matin, on prie les uns pour les autres et Dieu agit. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Et dans notre communauté, on n'a pas de pasteur rémunéré à temps plein, qui a des grandes disponibilités, mais on a des responsables qui ont un cœur pour servir, un cœur pour fortifier, et on s'encourage tous les uns les autres dans ce domaine-là. Donc on est tous concernés par ce reproche, ou en tout cas ce qui dit qu'on ne fait pas, et on va le voir ensemble, ces quelques mots, pour que ça nous donne des exemples pratiques sur qu'est-ce qu'on peut faire les uns avec les autres. Alors j'ai pris chaque mot, on a le fortifié, on a pensé, soigné, ramené, cherché. J'ai pris ces mots-là et je suis allée voir exactement le même mot dans l'Ancien Testament ou dans la Bible pour voir un peu plus largement qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire de façon concrète, ce mot-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment parlant. Alors, on va prendre le mot fortifier. Vu que ce reproche, il est fait, vous ne vous fortifiez pas ceux qui sont plus faibles. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont plus faibles, c'est ceux qui sont malades, qui sont frappés par quelque chose, qui souffrent, qui sont infirmes. Et le premier exemple, il est beau. C'est dans Genèse 21, 18. Agar, c'est la servante d'Abraham et de Sarah, et elle a eu un fils avec Abraham, Ismaël. À un moment donné, Abraham et Sarah les chassent, et Agar est désespérée parce que Ismaël est en train de mourir de soif dans le désert. Et elle ne peut pas voir ça, elle se cache, elle pleure et elle supplie l'Éternel. Et Dieu vient, il voit, il est touché, il voit et il dit, « Agar, saisis l'enfant, saisis-le par la main, va là-bas, je lui donnerai une postérité, je prendrai soin de lui, je le ferai devenir un peuple. » Ce mot « saisis-le », c'est ce même mot « fortifié ». Et ça nous parle. Parfois, on peut se voir les uns les autres. Est-ce que quelqu'un a soif ? Est-ce que quelqu'un est faible ? Est-ce que quelqu'un est dans ce désert-là, tout seul ? Est-ce qu'à des moments, on peut se saisir par la main, peut-être physiquement, mais en tout cas par des paroles ? Saisissons-nous pour nous rappeler que Dieu, il a une postérité devant nous, il a un chemin devant nous, et il a des plans pour nos vies. L'autre exemple de ce même mot, c'est dans Lévitique 25, 35. « Si ton frère ou l'étranger au milieu de toi devient pauvre, soutiens-le. » Soutiens-le, c'est le même mot que fortifier. C'est quelque chose de très concret. Si on a des besoins, si on manque de quelque chose, mais soutenons-nous les uns les autres aussi par des choses matérielles, très pratiques. Deutéronome 3, 28. Moïse devait fortifier Josué, dans le but de reprendre la direction du peuple après lui. Il devait le fortifier. Qu'est-ce qu'il lui faisait ? Il le prenait avec partout. Hein. On voit Josué qui suit Moïse partout. Donc, prendre avec, transmettre, enseigner, tout ça dans le but de fortifier. Prenons-nous avec les uns les autres. On a l'habitude peut-être de servir dans certains domaines. Prenons avec quelqu'un qui a moins l'habitude pour qu'il apprenne à voir et qu'ensuite il soit aussi capable de pouvoir faire les choses. Dans Deutéronome encore, 11 verset 8. Observez mes commandements afin d'avoir la force de vous emparer du pays. Observez mes commandements. Encourageons-nous les uns les autres à obéir à Dieu, à obéir à ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que ça va être une force pour nous emparer du pays, pour rentrer dans ce que le Seigneur il a pour nous, pour faire face aux difficultés. Et le dernier, pour fortifier, c'est 1 Samuel 23, 16. Jonathan, le fils de Saül, le meilleur ami de David, va voir David qui était en train de fuir. Il était dans une forêt. Et il va le rencontrer dans la forêt et il le fortifie. Il fortifie sa confiance en Dieu. J'aime beaucoup cette image-là. Parfois, on peut se retirer dans notre forêt et puis on se dit, bon, c'est bon, on est camouflé. Et là, le frère, le meilleur ami, il fait quoi ? Il va dans cette forêt-là, il va rejoindre et il fortifie sa confiance en Dieu. Parfois, quand on se cache dans notre petite forêt, on se dit, bon, on reste là. Et les gens en face se disent, oh, il est caché, il a peut-être besoin de temps. Mais en fait, osons venir nous chercher dans nos forêts pour qu'on s'encourage dans la confiance en Dieu. Plein d'exemples qui m'ont fortifié, qui nous donnent aussi des pistes concrètes sur comment je peux prendre soin de Clément, comment je peux prendre soin de Caroline, de Corinne, comment on peut prendre soin les uns des autres. Soyons attentifs à tout ça. Et puis il y a d'autres mots que je vais un petit peu moins développer, ils parlent assez bien d'eux-mêmes. Soigner, vous n'avez pas soigné celui qui était malade, en souffrance, qui avait une douleur, qui était abattu. Soigné, vous n'avez pas guéri. Est-ce qu'on peut s'engager les uns les autres à vraiment à prier jusqu'à ce que Dieu guérisse, à prier ensemble, à cheminer ensemble jusqu'à ce que Dieu intervienne dans la vie de la personne, jusqu'à ce qu'on voit Dieu agir, on voit Dieu répondre, on voit Dieu à l'œuvre. Vous n'avez pas pensé celui qui était blessé. Le mot blessé, il est vraiment très fort, beaucoup plus que malade. C'est quelque chose qui est brisé, qui est cassé, qui est déchiré. Et là, le mot penser, il était traduit plein de fois dans l'Ancien Testament par sceller un âne, mettre une selle, tourner autour, mettre un bandage. Parfois, on peut voir dans nos vies des choses qui ont été peut-être brisées, des choses qui sont déchirées, cassées. Il y avait une parole il n'y a pas longtemps sur un vase qui était cassé et qui était ensuite recollé, qui servait à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut être utilisé par Dieu les uns pour les autres pour recoller ces morceaux, pour mettre une bande jusqu'à ce que la cicatrisation elle soit faite? Vous n'avez pas ramené celui qui se détourne. Parfois on peut être séduit par quelque chose. La croix a été centrale dans les paroles qu'on a reçues ce matin et parfois notre regard, il peut aller ailleurs sur des difficultés et tout d'un coup les difficultés paraissent énormes ou tout d'un coup d'autres choses qui peuvent nous séduire, nous égarer, nous faire fuir du chemin sur lequel Dieu il a préparé pour nous. Et là, on peut se ramener sur ce chemin-là, les uns les autres. Nous parler avec vérité, nous parler pour nous fortifier dans notre être intérieur, à garder confiance en Dieu, à poursuivre son chemin. Et le dernier, c'est vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Là encore, le mot perdu est vraiment très fort. C'est détruit, péri. Un peu comme Ismaël dans le désert qui est en train de périr. Parfois, on peut périr ou des parties de nous peuvent périr pour X raisons. Ou peut-être que des gens qui ne font pas encore partie de ce troupeau périssent dehors. Et Dieu nous dit, mais allez les chercher, allez les chercher. Plein de mots qui nous encouragent, qui là sont un reproche, bien sûr là en premier au berger, mais qui nous concernent tous, qui nous concernent tous. On est tous responsables les uns des autres de comment on va, de nous accompagner là-dedans. C'était le premier acte. Le deuxième acte, c'est dans Ézéchiel 34, 11. Je vais lire la suite. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Etc, etc. Un peu plus loin, verset 16. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Dans ce deuxième acte, Dieu se révèle. Dieu parle de son cœur et dit, mais moi, en fait, je suis comme ça. Moi, je suis celui qui cherche, qui ramène, qui prend soin. Ça fait partie de qui je suis. Et on voit Dieu qui passe en revue tout le troupeau. Il nous connaît. Il sait même combien de cheveux on a sur nos têtes. Qu'importe où on est, qu'on soit Jonas sur un bateau en train de fuir ce que le Seigneur y veut, qu'on soit à genoux en train d'attendre qu'il nous parle, il nous connaît. Qu'importe où on est, il nous connaît, il nous passe en revue. Et qu'est-ce qu'il fait? Je trouve intéressant. Il ne nous court pas après partout où on est, même s'il est omniscient, omniprésent, tout ça. Il n'est pas en train de nous courir après, chacun avec son bâton en train de dire « Va où tu veux, moi je te cours après et j'évite juste que tu te fasses mal. » Il fait quoi? Il rassemble. Il rassemble son troupeau sur un territoire en sécurité. Il rassemble. Il nous rassemble ensemble, la grande église de tous les croyants, mais aussi localement parce qu'on ne peut pas rencontrer le monde entier. Il nous rassemble. C'est là qu'on est en sécurité, c'est là qu'il prend soin de nous. Il y a vraiment une dimension communautaire. Alors on l'a vu, on est encouragé à se fortifier, tout ça, mais parfois, on a aussi besoin d'être fortifié. On a aussi besoin d'être pensé. Et parfois, pour certains, c'est peut-être plus facile de fortifier quelqu'un. Ah, oh, ça va, oh là là, et on l'encourage et tout ça, que de se laisser fortifier. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. Ou parfois, quand on demande comment ça va, on a l'impression qu'on a dit que ça n'allait pas bien, mais l'autre, peut-être qu'il n'a pas compris ou qu'on a eu l'impression de se livrer, mais en fait, on n'a pas dit grand-chose. Ou ça peut arriver. Ou parfois, quelqu'un nous dit quelque chose et aïe, ah, ça a touché un petit point sensible. Là. Non, non, mais ça va, ça va. Et en fait, après coup, on se dit, mais t'as été bête ou quoi? Pourquoi tu dis ça alors que c'était pertinent ce qu'elle t'a dit? Quand on soigne un enfant, on dit toujours, ça va piquer, hein, quand on met du désinfectant, ça va piquer, mais t'inquiète pas, ça passe. C'est facile de dire ça aux enfants. Puis quand on doit se le faire soi-même, ça picote. Hein. Mais pour qu'une plaie puisse cicatriser, on a besoin de la nettoyer. Pour qu'elle ne s'infecte pas, on a besoin de la nettoyer. Et ça, ça fait toujours un processus qui fait mal. Et entre nous, c'est parfois pareil. Peut-être qu'une parole de quelqu'un, ah, ça fait mal. Oui. Mais ça aide au processus de guérison, au processus de cicatrisation. Alors comment je réagis? Parce qu'on peut tous se retrouver sur le côté, parfois avec le sentiment d'être isolé. Mais qui prend soin de moi? Ah, j'ai mal, qui me voit? Bon, on ne le dit pas, hein, mais qui me voit? Alors comment je réagis quand c'est comme ça? Est-ce que je me laisse ramener, rassembler par Jésus? Mais par les uns les autres aussi, par les paroles. Je trouve qu'on est une communauté qui osons s'encourager, on ose reconnaître ce qui est bien, et là j'aimerais nous encourager aussi à dire, est-ce que je peux aller voir quelqu'un qui m'a fortifié, qui m'a parlé avec vérité, et de le dire? Parce que des fois on ne le dit pas, on réalise après coup que c'était une parole de vérité qui peut-être a fait mal au départ, mais on ne revient pas toujours pour dire, tu sais quoi, ce que tu m'as dit là, ça m'a vraiment fortifié ou ça a vraiment permis de me ramener parce que je voyais les choses mais tellement différemment. Ce problème-là dans ma vie avait pris une telle place que je ne voyais plus correctement les choses. Et ta parole ou ton action, elle m'a ramenée. Est-ce qu'on arriverait encore plus à se le dire pour s'encourager? Pour s'encourager à l'humilité parce qu'on est tous dans la même situation. À s'encourager à l'humilité. Paul, il nous dit, mais je crois que c'est Paul qui dit, ne nous glorifions pas de nos forces, mais glorifions-nous de nos faiblesses. Glorifions-nous de Christ en nous en premier. Que notre orgueil ne soit pas une barrière entre nous, mais qu'on ose vraiment être dans cette humilité-là et de reconnaître, ah là, Caroline, ce que tu as fait là, ça m'a vraiment touchée. Ça a vraiment parlé à mon cœur qu'on ose se dire des choses comme ça, parce que ça va encourager Caroline, et puis vous, moi, ça va vraiment aussi m'aider à avancer. Dieu passe en revue, il rassemble. Est-ce qu'on se laisse fortifier, penser, ramener, chercher, soigner? Laissons-nous rassembler. Et le dernier acte, Ézéchiel 34 au verset 23. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je vais continuer, mais là, il n'est pas question de David, hein. Il est question de Jésus. J'établirai sur eux un berger, c'est pas David. David est une préfiguration de Christ. Je conclurai avec eux une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre de la campagne donnera son fruit et le pays donnera ses productions. Ils seront en sécurité sur leur territoire et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus au pillage parmi les nations. Les animaux du pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour eux une plantation qui aura du renom. Ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays et ne seront plus chargés d'opprobre par les nations. Ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux et qu'ils sont mon peuple, eux, la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains, moi je suis votre Dieu, oracle du Seigneur l'Éternel. Nous avons un bon berger, Jésus, Jésus. Dans Jean 10:10, je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix. Jésus vient et il nous prend. Et il prend soin de nous. Il prend soin de chacun d'entre nous. Ce troisième acte, il est central parce que c'est super de prendre soin les uns des autres, de se penser, c'est super d'oser dire comment on se sent. Mais si Jésus, il n'est pas central dans nos vies, on ne va pas courir avec la même perspective dans ce domaine-là. Et on a besoin de se rappeler que Jésus, et c'est magnifique, merci Nadine pour ton texte, la croix a besoin d'être au centre de nos vies. Ce que Jésus a accompli a besoin d'être au centre de nos vies, pas juste pour le fait de prendre soin les uns des autres, mais pour tous les domaines de nos vies. Mais si on oublie qu'à un moment donné, on a été à genoux, on a répandu notre cœur, on a réalisé à quel point on était pécheurs et qu'il n'y avait rien qui pouvait nous sauver, hormis de lever les yeux vers Jésus, si on oublie ça, on ne va pas courir avec la bonne perspective pour se soigner les uns les autres. On a besoin toujours, toujours, toujours de s'encourager là-dedans. La croix est centrale dans ma vie tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que ça me rappelle qu'on est égaux. Ça permet que j'oublie pas que, bah moi franchement, j'ai vachement moins de problèmes que toi. Hein. Oh non, on est tous la même valeur. Tous la même valeur. On est tous pécheurs et tous coupés de la gloire de Dieu. Et si on oublie ça, on va faire des dégâts en prenant soin les uns des autres. Ça nous évite de nous juger les uns les autres. On a besoin de mettre Jésus au centre aussi en premier, parce que sinon on peut courir, prendre soin, parce qu'en fait ça nous nourrit de faire ça. Vous vous souvenez de Jésus au bord du puits, qui avait soif, et la femme samaritaine qui arrive, et Jésus lui dit, tu sais, si tu buvais de mon eau, tu n'aurais plus jamais soif. Va chercher ton mari. Ah mais j'ai pas de mari. Oui, tu fais bien de le dire. Elle n'arrivait pas à se satisfaire d'un mari, elle en avait eu plusieurs, comme si elle était à la recherche de quelque chose tout le temps, mais qu'elle n'arrivait pas à satisfaire. Et Jésus, il lui donne une clé extraordinaire, là, il lui dit, mais en fait, si tu buvais mon eau, tu n'aurais plus jamais soif. Il y a plein de choses dans nos vies après lesquelles on court pour se satisfaire, pour rechercher la reconnaissance, chercher l'apaisement, chercher je ne sais pas quoi. Et Jésus nous dit, oh, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus n'est pas en train de dire, il ne faut pas se marier, on est d'accord. Mais il dit, mais en fait, dans ton mariage ou dans le fait de prendre soin les uns des autres, ce n'est pas là qu'est ton identité. Ce n'est pas là que tout va être comblé. Oui, c'est génial d'être marié, c'est génial de prendre soin les uns des autres. Mais cherche d'abord à boire à ma source. Et si je bois à sa source, je peux aller aider les autres avec une bonne perspective. Je peux me marier avec une bonne perspective. Je peux avancer avec une bonne perspective parce que je suis comblée. Et je n'attends pas toujours d'être comblée par quelque chose sans fin. Et puis, on a besoin que cet acte 3 soit central aussi, parce que Jésus, c'est notre modèle. Il a tout laissé sa gloire, il a laissé tout pour venir nous servir, et il a donné jusqu'à sa vie. Et il nous le dit dans le Nouveau Testament plein de fois. Aimer son prochain jusqu'à donner sa vie. Ouf. Parfois, on aide les gens et on se dit, ouh là là, attends, là, ça touche à ma vie privée, ça me demande un peu trop. C'est bon là, stop. Ok, ça peut se comprendre. Hein. Parfois, je réagis comme ça. Et en fait, ça m'interpelle aussi de me dire, mais Jésus, il s'est donné entièrement. Il s'est donné entièrement. Quelle barrière on peut parfois mettre? Ouh là là, là, ça toucherait un peu trop mes besoins, mes biens matériels, ou mon temps, ou mes émotions, ou je ne sais pas quoi. Là, ça prend un peu beaucoup de place. Alors oui, Jésus était sage. Hein. Jésus, plein de fois, il s'est écarté pour prier, aller se ressourcer, aller rechercher cette relation avec Dieu qui était vitale pour sa vie. Mais il allait jusqu'à donner sa vie et nous dit, c'est moi le modèle. Et ça nous encourage aussi. On ne court pas juste parce que c'est bien d'aider les gens. On court, on avance parce que Jésus a montré ce modèle-là. De nous fortifier. Il est le bon berger, il nous fortifie. Et il a donné jusqu'à sa vie. Alors c'est extrêmement challengeant. Mais je crois que c'est lui qui doit modeler nos cœurs, modeler qui on est. Et notre façon de voir ce soin-là les uns pour les autres. Donc dans ce passage, on a trois actes. On se rappelle qu'on est tous responsables les uns des autres, avec des degrés différents, bien entendu. Et les responsables sont premiers, doivent en premier montrer l'exemple. Jean Hay, qui nous a encouragés récemment sur ce passage-là, pour la dimension pastorale, nous disait que si on s'attend premièrement que ce soit les responsables qui fassent tout le soin, on réinvente le clergé. Et quelque part, c'est vrai. Si on attend que ce soit qu'une seule personne, ben je crois que ce n'est pas vraiment biblique en fait. Le Nouveau Testament ne nous raconte pas ça, il dit prenez soin les uns des autres. Par contre, oui, soyons des modèles, on est responsable de groupe de vie, soyons des modèles dans la façon dont on prend soin de notre groupe de vie, dans la façon dont on prend soin des jeunes, dans la façon dont on prend soin les uns des autres. Tous concernés pour se fortifier, se soigner, se penser. Et Jésus, Dieu qui a ce caractère-là, qui a cette identité-là d'être celui qui prend soin, il rassemble. Et il nous dit, est-ce que tu te laisses soigner? Qu'on ait toujours cette humilité-là de se rappeler ça. On est tous pareils. Est-ce qu'on peut vraiment aussi s'encourager dans cette humilité-là, dans cette authenticité? Et gardons Christ au centre. Pour tous les domaines, mais aussi pour celui-là. Christ au centre, la croix au centre, Christ comme modèle et Christ comme la source d'eau vive. Je vais terminer par prier rapidement. Seigneur, ta parole nous édifie, ta parole nous exhorte, ta parole nous fait du bien. Je prie que que les mots de ta parole, de tes écritures résonnent en nous, que ton esprit les fasse rendre vivantes, que dans ces temps qu'on vit, qui cherchent à nous séparer, à parfois nous tenir isolés, qu'on suive ton modèle pour prendre soin les uns des autres. Rends-nous créatifs, rends-nous passionnés de toi, remplis-nous de tes eaux débordantes. Merci parce que tu es le bon berger et que tu prends soin de chacune de tes brebis, tu prends soin de chacun de nous. Et tu nous as donné ton esprit pour que nous aussi, on puisse prendre soin les uns des autres. Ranime, Seigneur, ton esprit dans notre communauté. Ranime, Seigneur, ton esprit dans nos vies pour qu'on entende ta parole et qu'on aille la donner plus loin. À toi la gloire, Seigneur. Amen.